Bonjour à tous. Dans l'actualité de ce samedi, et nous reviendrons longuement dans ce journal sur l'assassinat hier soir de ce professeur d'histoire et géographie du collège Le Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine, Samuel Paty, 47 ans, décapité en pleine rue. Nous irons en début de journal à Conflans-Sainte-Honorine sous le choc. Jean Castex et Jean-Michel Blanquer recevaient et échangeaient ce matin avec les syndicats enseignants, le Premier ministre et le ministre de l'Éducation nationale ont rendu hommage au professeur assassiné et affirmé que l'État sera aux côtés des enseignants pour les protéger. Invité de ce journal, Benoît Test, secrétaire général de la FSU. L'attentat d'hier soir provoque beaucoup de réactions politiques et bouscule le calendrier du gouvernement. L'exécutif pourrait présenter son projet de loi contre le séparatisme plus vite que prévu. Dans ce journal également, le couvre-feu qui démarre à 21h ce soir dans 8 grandes villes et en Île-de-France. Et puis la prescription culturelle pour ce week-end, un conseil de lecture d'Ilana Moriousef. La météo de ce samedi, ciel dégagé au sud, couvert et humide au nord. Jean-Michel Golinski à la fin de ce journal et à 13h20, secret d'info. Au programme aujourd'hui, Jacques Monin.
Eh bien, une enquête sur les moyens mis en œuvre par les partis politiques pour lutter contre le harcèlement sexuel. Dans le sillage de MeToo, on a mis en place des cellules d'écoute et des formations, mais vous verrez qu'on est encore loin du compte.
Secret d'info à 13h20, Jacques Monin.
France Inter.
Il est mort décapité sur la voie publique en pleine journée. Samuel Paty avait 47 ans, père de famille. Il était professeur d'histoire et géographie au collège Le Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine. Selon des parents d'élèves, l'enseignant aurait montré en classe des caricatures du prophète Mahomet dans le cadre d'un cours sur la liberté d'expression. Certains parents ont dénoncé un blasphème et l'un des parents a déposé plainte contre le professeur. Un assassinat qui provoque l'effroi et la colère. Deux cellules d'écoute psychologique ont été mises en place à Conflans-Sainte-Honorine, où on retrouve en direct Rémi Brancato. Bonjour Rémi.
Bonjour Frédéric, bonjour à tous.
Conflans-Sainte-Honorine, une ville sous le choc et avec un besoin de recueillement ce matin.
Oui, les habitants, les voisins défilent depuis ce matin devant le collège du Bois d'Aulne, une rose à la main. On a vu quelques pancartes sur le modèle de « Je suis Charlie » qui affiche « Je suis prof » pour dire leur peine. Comme Élodie avec son fils qui est en cinquième dans cet établissement et son mari, elle n'a pas fermé l'œil de la nuit.
C'est incompréhensible, c'est à la fois terrifiant, choquant. Mais on doit être là parce que on peut pas laisser faire ça dans nos quartiers, devant chez nous, nos enfants, les professeurs. Quasiment, on n'a pas dormi. On va aller voir justement la cellule psychologique. Je pense qu'on en a besoin.
La cellule psychologique ouverte dans l'établissement. Une autre a été ouverte dans le centre de Conflans-Sainte-Honorine, explique le maire Laurent Brosse, venu soutenir ses habitants.
C'était un cours sur la liberté d'expression. Il avait montré l'image.
Le maire Laurent Brosse venu soutenir les habitants de Conflans-Sainte-Honorine.
Nous nous relèverons tous ensemble. C'est en dialoguant, en échangeant, en écoutant, comme je l'ai fait à l'instant, avec les parents d'élèves, qu'on parviendra à surmonter cette épreuve dramatique.
Cette épreuve dramatique, la mort de ce professeur d'histoire-géographie hier soir que tous connaissaient ici.
Rémi Brancato, ce professeur décapité avait 47 ans et il était père de famille.
Oui, les adolescents connaissaient bien ce professeur. Ils décrivent un enseignant impliqué. Cet élève avait suivi ses cours depuis la rentrée. Elle est venue lui rendre hommage. Elle est élève en seconde. Elle avait suivi ses cours il y a 2 ans en classe de quatrième.
C'était un cours sur la liberté d'expression. Il avait montré l'image du prophète, une caricature. C'est voir ça. À cause d'un cours sur la liberté d'expression, surtout, je l'ai vécu ce cours. C'est vraiment triste. Il n'y avait eu aucun problème sur ça. Et puis, il n'avait vraiment pas dit de choses insultantes. C'est vraiment horrible.
Mais cette année, une polémique était née après ce cours sur la liberté d'expression où le professeur aurait montré des caricatures du prophète Mahomet à une classe de quatrième. Cet élève qui avait suivi ce cours depuis la rentrée est venu ce matin lui rendre hommage. Elle dit son incompréhension.
J'ai écrit un mot dans un cahier. Je disais que je comprenais pas pourquoi ils ont fait ça à un prof qui faisait absolument son cours comme tous les ans. C'est choquant parce que
c'est juste un cours.
Ce cours aurait déclenché, vous le disiez Frédéric, une plainte d'un parent d'élève et une polémique. Les autres membres de la communauté éducative et les autres parents d'élèves, ce matin, sont abasourdis devant le collège.
Rémi Brancato avec Fabien Gosset à Conflans-Sainte-Honorine. Merci. L'enquête, maintenant, elle progresse vite. 9 personnes sont ce matin en garde à vue, des membres de l'entourage familial de l'assassin, mais aussi 2 parents d'élèves du collège où enseignait Samuel Paty. Bonjour Jean-Philippe Degnaud.
Bonjour Frédéric.
Alors l'assassin est un jeune russe, un tchétchène de 18 ans, né à Moscou.
Oui, il habitait Évreux, à plus d'une heure de route des lieux de son assassinat, là où les enquêteurs ont procédé à l'interpellation des membres de sa famille hier soir. Ses parents, un grand-parent et son petit frère, ainsi que 3 personnes de son entourage. Évidemment, il s'agit pour les enquêteurs d'établir s'il existe un lien entre le jeune meurtrier et le professeur d'histoire, et s'il n'y en a pas directement, comment l'assaillant a reconnu l'enseignant à la sortie du collège du Bois d'Aulne hier soir. Il y a 10 jours, donc, ce professeur avait montré une caricature de Mahomet dans une classe de 4e. L'initiative avait scandalisé un parent d'élève, lui aussi placé en garde à vue hier avec sa compagne. L'homme avait posté une vidéo sur Internet en qualifiant l'enseignant de voyou et en appelant d'autres parents à se mobiliser. Puis il avait porté plainte contre le professeur, lequel avait aussi porté plainte contre le parent pour diffamation. Dans le collège, la principale avait proposé de rouvrir le dialogue avec les parents et les élèves avant-hier, en faisant notamment intervenir le référent académique sur la laïcité.
Alors Jean-Philippe, cet assassinat a été revendiqué sur les réseaux sociaux et notamment Twitter.
Oui, une photo insoutenable a été diffusée hier sur Twitter avec un message de revendication qualifiant Emmanuel Macron de dirigeant des infidèles. Au nom d'Allah, j'ai exécuté un de tes chiens de l'enfer qui a osé rabaisser Muhammad. Est-il écrit sans que l'on ait encore la certitude que ce message ait été directement envoyé par l'assassin. À Évreux, ce dernier était connu des services de police pour des toutes petites infractions, mais son casier judiciaire était vierge et il n'était pas suivi par les renseignements dans le domaine de la radicalisation.
Jean-Philippe Degnaud, merci. Jean Castex a déclaré ce matin que ce sont les valeurs les plus fondamentales de la République qui sont touchées. Le Premier ministre, accompagné du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a reçu les syndicats enseignants après ce qu'il a qualifié d'agissement barbare, imputable au terrorisme islamique. Une réunion a également eu lieu à Matignon ce matin avec les ministres de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. À l'instant, Jean-Michel Blanquer vient de s'exprimer après les rencontres de la matinée avec les enseignants et la réunion à Matignon. Il rend hommage au professeur assassiné, Jean-Michel Blanquer, avec Maxime Debs.
Je veux d'abord exprimer toute l'émotion de l'éducation nationale, toute la solidarité avec sa famille, avec ses proches, avec ses collègues. Et en disant cela, je pense à tous les professeurs de France qui se sentent touchés par ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé est inqualifiable, ça n'a pas de nom, et ça doit être combattu. Ce qui s'est passé a des racines, ces racines c'est la haine, et c'est la haine de la République. Il y a clairement des ennemis de la République, contre la République, et donc contre l'école, parce que l'école c'est la colonne vertébrale de la République. C'est pourquoi notre réaction doit être à la hauteur.
Jean-Michel Blanquer avec Maxime Debs. La barbarie a donc frappé l'école. Ce que nous avons vécu hier soir, c'est le combat de la violence contre l'éducation, expliqué ce matin sur France Inter Marlène Schiappa. Le SNES FSU a appelé les personnels de l'éducation à faire une minute de silence ce matin dans les établissements scolaires encore ouverts en cette veille de vacances de la Toussaint. Les syndicats enseignants ont donc échangé ce matin avec le ministre de l'Éducation nationale et le Premier ministre. Invité de ce journal, Benoît Teste, secrétaire général de la FSU, le premier syndicat de l'enseignement. Bonjour Benoît Teste.
Bonjour, bonjour.
Vous êtes également professeur d'histoire et géographie. Que vous ont dit ce matin Jean Castex et Jean-Michel Blanquer ?
On a partagé une analyse de la situation. C'est important qu'on ait cette réunion et qu'on puisse échanger autour du besoin de cohésion nationale et de grande cohésion dans ce moment extrêmement douloureux pour la communauté éducative, douloureux avec de l'effroi et aussi de la colère, effectivement. Nous avons effectivement partagé l'idée qu'il fallait souder la nation autour des enseignants, autour de la communauté éducative et autour des valeurs, surtout, qui sont attaquées à travers cet acte ignoble. Donc, on a partagé aussi l'émotion. Vous avez dit, hein, il y a eu ce matin des minutes de silence. Demain, il y a un rassemblement à 15h, place de la République, qui concerne l'ensemble de la société, hein, laquelle on appelle, enfin c'est plutôt une marche blanche, hein, qu'un rassemblement syndical entre guillemets. Et puis il faudra qu'il y ait surtout des analyses de fond et des réponses aux questions que cet acte ignoble soulève.
Benoît Teste, l'éducation nationale et viser l'école, c'est l'un des fondements de notre République. Est-il impossible dans certaines écoles de donner un cours sur la liberté d'expression?
Non. Je pense qu'il faut surtout pas laisser dire ça. Et de toute façon, le message principal que nous on a envie d'envoyer, c'est il faut renforcer, continuer évidemment ce qui se fait, mais renforcer ce qui se fait sur la liberté d'expression, l'éducation à l'esprit critique, la laïcité, le vivre ensemble, etc. Et il faudrait pas laisser penser effectivement que rien n'est possible aujourd'hui dans les établissements. L'immense majorité des classes où on aborde ces sujets en cours d'éducation morale et civique, en cours de littérature aussi quand on étudie des caricatures, se déroule convenablement et on y arrive, je veux dire. Alors évidemment, là, il y a l'acte d'un fanatique sur fond effectivement de montée de l'islamisme dans certains secteurs de la société. Je ne joue pas les naïfs en disant que l'immense majorité des classes, dans l'immense majorité des classes, on parvient à enseigner. Mais par contre, je pense qu'il faut renforcer cet enseignement. Il faut le conforter. Il faut qu'il soit sérieux et rigoureux. Il faut que effectivement, on ait davantage que des bonnes pratiques qui soient diffusées parfois par des référents laïcité, etc. Qu'on ait plutôt une attention à une formation solide de la part des enseignants, pour aborder ces questions.
Et donc, dans les cours sur la liberté d'expression, il faut continuer à montrer les caricatures du prophète.
Oui, comme on peut les montrer parfois comme des supports pédagogiques qui existent, sans en faire non plus l'alpha et l'oméga. Il ne s'agit pas d'aller dire qu'il faut à toutes les heures de cours et tout le temps et sous toutes les coutures montrer des caricatures. Si ça répond à un objectif pédagogique, évidemment. Après, il faut le faire avec discernement. Il faut voir qu'est-ce qui va être utile, qu'est-ce qui peut être bien de diffuser aux élèves, sans s'interdire rien du tout, mais en rapport avec des instructions officielles aussi, en rapport avec des programmes scolaires qui doivent effectivement cadrer un peu les choses. Mais voilà, effectivement, il faut travailler ces questions-là.
Merci Benoît Teste, secrétaire général de la FSU. Alors l'attentat d'hier soir rappelle le précédent de Saint-Quentin-Fallavier dans l'Isère en juin 2015, une première décapitation sur le sol français par un djihadiste, mais l'assassinat d'hier qui vise les enseignants et l'éducation nationale représente un tournant dans notre société. Hugo Micheron, enseignant en Sciences Po, était l'invité ce matin du 6-9 de France Inter.
Le tournant, il se situe quand même au niveau de ce que représente le professeur en France et de la possibilité d'identification, en plus de l'acte barbare, et puis de poster les méfaits de son crime tout de suite sur les réseaux sociaux, comme ça se faisait à Raqqa. Et donc c'est aussi cette réimportation des méthodes irakiennes et moyen-orientales dans la société française qui sont problématiques. Donc chaque attentat est un tournant, mais il faut pouvoir les décrypter et voir aussi comment la société française réagit. Pour l'instant, on n'est collectivement pas tombé dans les pièges que nous tendent les djihadistes, à savoir la surenchère, mais il ne faut pas non plus être tétanisé et tomber dans le déni. Et cette réalité djihadiste, elle existe, et ce qui vient de se passer est très grave, évidemment, et donc doit être analysé, et il faut apporter une réponse collective face à ce sujet.
Hugo Micheron, ce matin sur France Inter, hier soir, devant le collège Le Bois d'Aulne, où enseignait Samuel Paty, le professeur assassiné, Emmanuel Macron, aussi ému que tendu, a dénoncé un attentat terroriste islamiste caractérisé.
Tous et toutes, nous ferons bloc. Ils ne passeront pas. L'obscurantisme et la violence qui l'accompagne ne gagneront pas. Ils ne nous diviseront pas. C'est ce qu'ils cherchent. Et nous devons nous tenir tous ensemble, citoyennes et citoyens. Et j'appelle l'ensemble de nos compatriotes, dans ce moment, à faire bloc, à être unis.
Propos recueillis par Rémi Brancato. Les réactions politiques. La France insoumise et le député Éric Coquerel appellent à un rassemblement du peuple, croyants et non-croyants. Dès la semaine prochaine, Jean-Luc Mélenchon dénonce un ignoble crime à Conflans. Éric Ciotti, député LR, déclare qu'il faut cesser de reculer face à l'islamisme. Nous sommes en guerre, dit-il. Marine Le Pen, du Rassemblement National, estime qu'à ce niveau de barbarie insoutenable, c'est par la force que nous devons chasser l'islamisme de notre pays. Pour le gouvernement et pour Emmanuel Macron, l'attentat d'hier soir bouscule le calendrier. Bonjour Laurence Perron.
Bonjour.
Et 15 jours après le discours du président de la République sur le séparatisme, en visant clairement l'islamisme radical, l'exécutif veut accélérer, Laurence, le projet de loi doit ou devait être présenté en décembre prochain.
Oui, et le président de la République a été très clair hein, hier soir à Conflans-Sainte-Honorine. Il y aura des actes et des actes rapides. Alors dès hier soir, le Premier ministre a été chargé d'accélérer les mesures d'un plan contre les séparatismes dont on ne pensait pas, vu le contexte, qu'il arriverait aussi vite. Et il est désormais acquis que c'est prioritairement l'islamisme radical, qualifié d'obscurantisme par Emmanuel Macron, qui est dans le viseur. Ce matin à Matignon, vous l'avez dit, Jean-Michel Blanquer était réuni autour du Premier ministre Jean Castex. Il y avait aussi Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, Marlène Schiappa, sa ministre déléguée, et le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, pour faire le point sur la situation et commencer à avancer des solutions. Le plan pauvreté qui devait être présenté aujourd'hui à Épinay-sur-Orge a été reporté. Demain, le Premier ministre devrait dévoiler, dans le journal du dimanche, des premières annonces. Un conseil de défense restreint se tiendra d'ici demain soir autour du président de la République. Et avant cette semaine, un plan sera présenté au Parlement. On n'en connaît pas encore tout à fait la tonalité. Le président de la République a toutefois prévenu. Il faut faire bloc, ils ne nous diviseront pas.
Merci Laurence Perron, voilà ce qu'on pouvait dire à la mi-journée après l'assassinat hier soir de Samuel Paty, le professeur d'histoire et géographie du collège de Conflans-Sainte-Honorine. Laurence Perron nous le disait, un conseil de défense se réunira d'ici demain autour d'Emmanuel Macron. Un hommage national sera rendu à l'enseignant sans indiquer la date, nous dit l'Élysée pour l'instant. Et puis le procureur national antiterroriste Jean-François Ricard s'exprimera cet après-midi à 15h. Enfin, sachez que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, adresse ses pensées aux enseignants en France et partout en Europe.
France Inter, le journal de 13h, Frédéric Barrère.
L'autre temps fort de l'actualité aujourd'hui en France, c'est le couvre-feu qui démarre ce soir à 21h, de 21h à 6h du matin dans 8 grandes villes et en Île-de-France. 20 millions d'habitants environ en région parisienne, mais aussi à Lyon, Saint-Etienne, Grenoble, Aix-Marseille, Montpellier, Toulouse, Rouen et Lille devront rester chez eux, sauf dérogation. Comme pendant le confinement du printemps dernier, les personnes devant sortir pendant le couvre-feu devront donc télécharger ces attestations de déplacement. Un couvre-feu pour éviter un reconfinement est donc en vigueur depuis hier soir minuit, reportage à Saint-Étienne de Céline Autain de France Bleu, Saint-Étienne-Loire.
Chérie Fondue, bonsoir. Non, pour deux, on n'a plus rien, madame. Tout est complet, je suis désolé. Merci de votre appel, madame. À bientôt, au revoir.
Des appels comme ça, Philippe Duport en reçoit toutes les deux minutes pour cette dernière soirée sans couvre-feu. Il y a aussi les clients qui appellent pour le reste de la semaine et ça demande un peu plus de pédagogie.
Alors, il est clair que c'est tôt. Nous, on va mettre en place le restaurant à partir de 18h15, c'est-à-dire que si vous pouvez arriver assez tôt, de façon à pouvoir prendre et l'apéritif et prendre la commande de votre plat tranquillement, et on fera en sorte de vous servir de façon à pouvoir libérer les lieux sur le coup des 20h30, 20h40 au maximum.
Faire le pari de rester ouvert, c'est éviter de mettre la clé sous la porte pour lui et ses employés.
Moi, j'ai des salariés qui ont aussi des emprunts, qui comptent sur un salaire, pas uniquement pour nos beaux yeux, et on s'est aussi engagé en les embauchant à leur fournir un travail et en contrepartie un salaire.
D'autres restaurants choisissent de fermer, comme l'Étoile et la Source à Saint-Galmier, avec la crainte que les choses durent plus longtemps que prévu pour le chef Antoine Bergeron.
Au mois de mars, le samedi soir, quand on a appris qu'on fermait, on se disait bon, c'est pour 15 jours et puis tout va bien. Et puis en fait, on a fermé 3 mois. Dans le coin de notre tête, on a eu un souci et une appréhension en espérant qu'on se trompera et qu'on pourra réouvrir au mois de décembre et accueillir nos clients sereinement.
Dernier service demain midi jusqu'au 1er décembre au moins.
Céline Autain de France Bleu, Saint-Étienne-Loire. On termine ce journal avec la prescription culturelle pour ce week-end et un conseil de lecture. Un récit inspiré d'une histoire familiale marquée par le traumatisme de la guerre d'Algérie, le tailleur de Rélizane d'Olivia Elkaïm, un roman sur l'exil et le mépris enduré à l'arrivée en France et la reconquête acharnée de la dignité. Ilana Mouyoussef.
Longtemps, Olivia Elkaïm n'a rien voulu savoir de sa part algérienne. Le folklore attaché au pied noir, elle le détestait.
Il y avait autour de l'Algérie un silence bruyant, c'est-à-dire il y avait autour de l'Algérie un folklore important qui passait par les chansons d'Enrico Macias, qui passait par le couscous boulette, qui passait par beaucoup, beaucoup de bruit, des phrases comme « on est parti, une main devant, une main derrière », des phrases qui, en réalité, cachaient la vérité de ce qui s'était passé et la tragédie de l'exil.
C'est grâce aux documents conservés par son père qu'Olivia Elkaïm a pu travailler, car le pays dont ses grands-parents furent chassés lui reste interdit.
Je sais qu'il y a encore à Rélizane des meubles qui ont appartenu à mes grands-parents. Donc il y avait ce projet littéraire un peu dingue d'aller trouver des meubles de mes grands-parents, leur machine à coudre, les boutons, les ciseaux, etc. Et puis finalement, j'ai fait une demande de visa. Ça m'a pris plusieurs mois. Et puis ce visa m'a été refusé. Je me suis pris une porte dans la figure. Et en fait, j'ai refusé ce refus de visa. J'ai décidé que j'allais aller en Algérie. En écrivant.
C'est par les mots qu'elle fait revivre Marcel, son grand-père, la famille déchirée, un frère pour l'indépendance, un autre pour l'OAS, le déclassement dans une France hostile et finalement la reconquête acharnée de la dignité.
Le tailleur de Rizlizane d'Olivia Al-Kaïm chez Stock. Le temps pour les heures qui viennent et pour demain.
La météo avec Bureau Vallée, spécialiste depuis 30 ans en papeterie, fourniture et mobilier de bureau.
Jean-Michel Golinski.
Une situation anticyclonique très calme ce week-end, mais le soleil aura parfois du mal à émerger des grisailles tenaces, en particulier cet après-midi sur les régions du Grand Est et de Bourgogne-Franche-Comté, avec possiblement quelques bruines en montagne. Sur la façade atlantique et du sud-ouest au pourtour méditerranéen, du soleil cet après-midi dans un ciel peu nuageux. Et puis sur les autres régions, les éclaircies seront plus ou moins durables, avec des températures de l'ordre de 13 degrés cet après-midi à Lille, Paris, Bourges et Strasbourg, 14 à Lyon et à Cherbourg, 15 à Rennes ainsi qu'à Limoges et La Rochelle, 16 près de la Garonne, 19 dans le golfe du Lion et sur la Corse, et jusqu'à 22 degrés prévus dans les terres provençales. Demain, risque de grisailles persistantes près de la Belgique et de l'Allemagne, laissant perler un peu de pluie. Mais plus on ira vers le sud, plus l'ensoleillement sera généreux après la levée des brouillards et des nuages bas, surtout concentrés dans les vallées humides.
Jean-Michel Golinski de Météo France.